L'énergie géothermique provient de l'accroissement de température au fur et à mesure que l'on pénètre plus profondément dans l'écorce terrestre, soit du fait du gradient naturel qui est de 3 degrés Celsius par 100 mètres, avec un flux moyen de 60 milliwatts par mètre carré, soit du fait de singularités géophysiques constituant des réservoirs géothermiques naturels dans des roches poreuses à haute température. On a coutume de distinguer trois grandes catégories de réservoirs en fonction de leur niveau de température. La haute température, supérieure à 220 degrés Celsius, la température intermédiaire, entre 100 et 200 degrés Celsius, et la basse température, entre 50 et 100 degrés Celsius. Dans le premier cas, le fluide géothermique peut être essentiellement constitué d'eau ou de vapeur. Dans les deux autres, il s'agit d'eau, éventuellement sous pression. Pour des raisons environnementales, le fluide géothermique doit généralement être réinjecté dans le réservoir après utilisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Les cycles de conversion thermodynamique de l'énergie géothermique font appel à trois techniques principales. Les centrales dites directes peuvent être utilisées si le fluide géothermique est de la vapeur surchauffée qui peut être directement détendue dans une turbine. Historiquement, c'est ce type de centrale qui a été le premier mis en œuvre à Lardarello en Italie dès 1904. Les centrales à vaporisation par flash permettent d'exploiter les sites où le fluide géothermique se présente sous forme de liquide pressurisé ou de mélange liquide-vapeur. C'est aujourd'hui le type de centrale le plus employé. Le fluide géothermique commence par être détendu dans une chambre à pression inférieure à celle du puits, ce qui permet d'en vaporiser une partie, qui est ensuite détendue dans une turbine. Les systèmes dits binaires font appel à un fluide thermodynamique secondaire qui suit un cycle organique de Rankine fermé, la chaudière étant constituée d'un échangeur de chaleur avec le fluide géothermique. Des cycles mixtes ou combinés peuvent faire appel à la fois à un système direct ou flash et à un système binaire. Dans ce qui suit, nous présenterons quelques-uns de ces cycles modélisés avec ThermOptime. Le cycle d'une centrale directe est très proche de celui de IRN. La différence principale provient de la nécessité d'extraire les gaz non condensables GNC si l'on souhaite pouvoir condenser l'eau en sortie de turbine, ce qui permet de détendre la vapeur à des pressions inférieures à l'ambiante. Selon les cas, l'extraction se fait en utilisant un éjecteur entraîné par la vapeur géothermique ou un compresseur couplé à la turbine. Généralement, le refroidissement du condenseur est assuré par une tour de refroidissement dont l'eau d'appoint peut être prélevée sur l'eau condensée elle-même. Comme nous l'avons indiqué, ce type de centrale suppose l'existence de vapeur sèche au puits de production, ce qui est exceptionnel. Seul le site de Lardarello et celui des geysers au nord-est de la Californie présentent cette propriété. Le synoptique d'un tel cycle est donné sur cette figure. On a considéré qu'on disposait de 111 kg par seconde de vapeur à 5,5 bars et 204 degrés Celsius, ce qui représente une surchauffe de 50 degrés Celsius environ. Cette vapeur est détendue à 0,123 bars, soit 50 degrés Celsius, puis condensée et recomprimée avant réinjection. Dans ce cas, la puissance mécanique produite vaut 57,3 MW et le rendement du cycle 20,9%. Généralement, on ne dispose au niveau du puits que d'un mélange liquide-vapeur de faible titre, inférieur à 0,5, que l'on ne peut donc directement envoyer dans la turbine. Si la pression initiale est suffisante, une solution consiste à détendre isentalpiquement partiellement ce mélange afin d'en vaporiser une partie qui est alors turbinée, tandis que la fraction liquide est réinjectée. Cette opération, comme dans le cycle OTEC que nous venons d'étudier, s'appelle effectuer un flash. Tout comme dans le cas de la centrale directe, la phase vapeur contient généralement une quantité significative de gaz non condensable qu'il faut extraire si l'on veut condenser l'eau en sortie de turbine. On notera que la vapeur qui traverse la turbine est de l'eau distillée qui peut quelquefois être valorisée, notamment comme eau potable. Cette figure montre le synoptique d'un tel cycle modélisé avec Thermoptime. Vous l'étudierez dans une exploration dirigée. On a supposé ici que l'on dispose de 760 kg par seconde d'eau chaude à l'état de liquide saturé à la température de 230 degrés Celsius et à la pression de 28 bars. Cette eau subit un flash à 6 bars, ce qui conduit à un titre de 0,15. Les phases liquide et vapeur sont ensuite séparées, la première étant recomprimée avant réinjection, tandis que la seconde est détendue à la pression de 0,123 bars, 50 degrés Celsius, puis condensée. La puissance mécanique produite vaut 57 MW et le rendement 9,6%. Signalons que la pression à laquelle le flash est effectué, 6 bars, n'a pas fait l'objet d'une optimisation. La pression et la température de condensation sont quant à elles relativement élevées du fait des incondensables présents dans le fluide géothermique. Dans certains cas, si la pression en sortie de puits est suffisante, il est possible de réaliser un double flash, ce qui permet de récupérer de la vapeur à deux niveaux de pression différents et d'augmenter les performances de la centrale. Théoriquement, on pourrait ainsi multiplier le nombre d'étages de flash, mais les contraintes technologiques et économiques le limitent en pratique à deux. Comme le montre ce schéma, le flux liquide qui, dans le cycle précédent, était recomprimé puis réinjecté, subit cette fois-ci un second flash à la pression de 0,931 bar, ce qui conduit à un titre de 0,115. La phase liquide est recomprimée et réinjectée, tandis que la phase vapeur est mélangée au flux de vapeur issu du premier flash et détendue à la même pression. L'ensemble est ensuite détendu dans une turbine BP à la pression de condensation. La puissance mécanique produite passe de 57 à 77 MW, ce qui représente une augmentation de 35%. Le rendement vaut quant à lui 13%. Les pressions auxquelles les flashs sont effectués, 6 et 0,931 bars, n'ont pas fait l'objet d'une optimisation. Lorsque la température ou la pression en sortie de puits sont basses, il ne devient plus possible de faire appel à des cycles à des temps directs ou à flash. On utilise alors un deuxième fluide thermodynamique qui suit un cycle de Rankine fermé, avec ou sans surchauffe, du type de ceux que nous avons étudiés pendant la première semaine, c'est-à-dire un cycle organique de Rankine ou ORC. Le fluide géothermique transfère alors sa chaleur à ce fluide avant d'être réinjecté. Une tour de refroidissement ou un aérocondenseur permet d'assurer la condensation du fluide de travail, dont le choix dépend de multiples considérations technologiques, environnementales et économiques. Cette figure montre le synoptique d'un tel cycle, modélisé avec Thermoptime. On a supposé que l'on dispose de 310 kg par seconde d'eau chaude à l'état de liquide sourfroidi à la température de 169 degrés Celsius et la pression de 20 bars. Cette eau sert à vaporiser, avec une très légère surchauffe de 2 degrés Celsius, du butane qui est ensuite détendu dans une turbine et condensé, selon un cycle ORC tout à fait classique. La puissance mécanique produite est ici de 18,9 MW et le rendement de 12%. Les pressions et températures de condensation du butane peuvent ici être plus basses que pour le fluide géothermique dans les cycles à flash, du fait de l'absence d'un condensable dans ce second cycle. Bien évidemment, ce cycle peut être amélioré en introduisant judicieusement des réchauffes et ou des prélèvements. Comme nous l'avons vu, une des contraintes rencontrées dans les cycles directs ou à flash à condensation est la nécessité d'extraire les incondensables qui se traduit par une consommation énergétique parasite non négligeable. Une solution alternative consiste à utiliser un cycle combiné, associant un cycle direct ou à flash avec un cycle ORC à fluide thermodynamique intermédiaire. La vapeur sortant de la turbine a une pression supérieure à l'atmosphérique et étant refroidie dans la chaudière du second cycle. Reprenons à titre d'exemple le cas du cycle à simple flash étudié précédemment, la vapeur étant cette fois-ci détendue uniquement jusqu'à 0,9 bar au lieu de 0,123 bar, puis refroidie jusqu'à 50 degrés dans un échangeur servant de générateur de vapeur pour un cycle de Hirn à butane. On obtient alors le cycle combiné de cette figure, dont la puissance mécanique produite passe de 57 à 66 MW. L'un des principaux inconvénients des cycles à flash est qu'ils n'exploitent qu'une faible part du débit total de fluide géothermique, celle correspondant à la fraction de vapeur après le ou les flashs, la fraction liquide étant réinjectée. Les cycles mixtes permettent de mieux valoriser le fluide géothermique en se servant de la fraction liquide pour fournir l'énergie nécessaire à un cycle ORC annexe. On peut ainsi obtenir un rendement global bien supérieur à celui d'un cycle à flash. Bien entendu, si le cycle amont d'un cycle combiné est du type flash, il est possible de lui associer un second cycle ORC du type mixte. Repartons du cycle à simple flash étudié précédemment et greffons-lui un cycle ORC à butane, non plus sur le circuit de la vapeur détendue, mais cette fois sur le circuit du fluide géothermique avant réinjection. Le synoptique de cette figure montre le résultat obtenu. La puissance mécanique produite passe de 57 à 104 MW. Le gain apporté est tout à fait significatif. Comme nous l'avons dit, il serait tout à fait possible de greffer ce cycle à butane sur le cycle combiné, ce qui permettrait d'en améliorer les performances.